Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, nous recevons dans cette première partie Dr Jérôme Sokolo, spécialiste en otorhino-laryngologie. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, il peut arriver qu'un enfant naisse avec des malformations. Ça peut être un problème d'audition, des troubles oreels ou autres. Alors, si cela est détecté à temps, l'enfant peut être pris en charge afin de corriger le mal. À ce sujet, comment reconnaître un nouveau-né qui a des réactions normales et quelle attitude adopter cas où on remarque une anomalie chez l'enfant ou chez les nouveau-nés. Docteur Jérôme.
Oui, il faut dire d'abord qu'en premier lieu, le problème de dépistage de la surdité reste un problème qui préoccupe de nombreux pays dans le monde, notamment aux États-Unis
oui. Et
au Mississippi. Mais il faut ajouter qu'il y a plusieurs façons, moyens par lesquels nous pouvons reconnaître un enfant malentendant, c'est-à-dire qu'un enfant qui a des handicaps en termes d'audition. Et généralement, ce qui est constaté, c'est d'abord la mère qui doit jouer un grand rôle, notamment dans l'absence des réactions au bruit, c'est-à-dire avant l'âge de 3 mois, vous remarquez que l'enfant est incapable de réagir vis-à-vis des différents bruits, des bruits environnementaux, des bruits ambiants, oui. Des bruits violents, etc.
D'abord, docteur, il semble que lorsqu'un enfant naît, généralement, le médecin les retourne, ils font une série de gestes pour vérifier si l'enfant est normal.
Oui, effectivement, tous ces gestes sont dans le cadre de savoir un peu le développement psychomoteur de l'enfant, donc c'est-à-dire voir si l'enfant n'a pas de troubles neurologiques pouvant justifier la survenue de plusieurs affections ultérieures.
Oui. C'est quel geste, par exemple, généralement que
oui, généralement, ils ont tendance, surtout à la naissance, quand l'enfant naît, on fait ce qu'on appelle le score d'Apgar, qui vérifie évidemment l'état neurologique de l'enfant, voir un peu si l'enfant respire normalement, voir s'il n'a pas des problèmes en rapport avec la motricité, etc. Ce sont des choses qui sont recherchées dès la naissance, à la première, à la cinquième minute, et on peut aller même au-delà de la cinquième minute, donc 10 minutes, voire. Donc ce sont des éléments qui peuvent indiquer le médecin à comprendre si déjà à ces niveaux-là, les anomalies existent. Et là, il faudra que j'insiste pour dire que
oui. Pour
ce qui concerne, pour ce qui nous concerne donc la surdité,
oui. Déjà
à ce niveau-là, on peut avoir déjà des anomalies qui peuvent être révélatrices de la surdité plus tard chez l'enfant.
Voilà, donc il y a déjà des signes qui peuvent le prouver. Alors, quels sont ces signes, par exemple, lorsqu'un enfant naît, comment reconnaître qu'un enfant a des problèmes de surdité?
Oui, à la naissance, souvent les signes sont trompeurs. Tout se groupe dans le cadre des atteintes neurologiques. C'est-à-dire qu'un enfant qui, à la naissance, sort de sa filière génitale, s'il a des anomalies neurologiques, à la longue, ça peut entraîner une surdité, c'est ce que nous appelons surdité neurosensorielle,
oui. C'est-à-dire
qu'il y a une atteinte neurologique importante.
Pour ça, il peut y avoir quelques problèmes d'audition.
Oui,
qui peuvent être réglés à la longue.
Et qui peuvent être réglés si le dépistage est précocement assuré.
Oui.
Oui.
Alors, pour reconnaître que l'enfant écoute, entend très bien, qu'est-ce que vous faites généralement?
Bon, il existe plusieurs procédés cliniques que nous pouvons chercher. On fait parfois ce qu'on appelle, surtout chez les tout petits enfants, on fait de temps en temps ce que nous appelons l'acoumétrie. L'acoumétrie, c'est-à-dire vous utilisez des instruments, des objets familiers, et on peut utiliser soit les stimulus, c'est-à-dire la voix qui est considérée un stimulus, et de là, on voit la réaction de l'enfant vis-à-vis de ces différents objets.
Vous criez, par exemple?
Oui, on peut utiliser aussi la voix qui est un stimulus. Donc la voix peut être aussi constituée une façon par laquelle on peut détecter si cet enfant n'entend ou n'entend pas. Par les objets familiers, on peut utiliser des sifflets, des sonnettes.
Pour battre les mains.
Oui, on peut battre les mains. Et actuellement, on peut utiliser même des jouets calibrés. Mmh. Donc, des jouets sonores calibrés qui peuvent permettre au praticien de détecter à quel seuil cet enfant a des problèmes.
Donc là, quand vous, par exemple, vous produisez du bruit, la réaction normale, l'enfant doit se retourner.
Tout à fait, tout à fait. Il faut que les regards de l'enfant doivent être orientés vers la source sonore. Il faut qu'il regarde. Tant qu'il ne regarde pas, à moins qu'il y ait d'autres anomalies qui sont associées aussi, notamment les enfants débiles ont aussi parfois des problèmes dans ce sens-là. Et c'est là où il faut que la présence d'un psychologue qui est importante à ce moment-là pour ensemble voir s'il s'agit simplement d'un problème isolé de surdité ou il s'agit d'une composante multifactorielle.
Voilà, mais il semble que certains enfants peuvent naître avec des problèmes, ils souffrent de l'otite, de ce mal d'oreille qui peut conduire plus tard à la surdité, si ce n'est pas pris en charge.
En fait, là, vous m'évoquez justement la question de savoir les facteurs étiologiques de la surdité. Il faut dire que dans les facteurs étiologiques de la surdité, on classifie en termes de facteurs prénataux, c'est-à-dire des facteurs qui interfèrent avant que l'enfant ne naisse, et vous savez qu'il y a eu un certain comportement vis-à-vis de la maman.
Oui.
Il y a eu des notions de prise de médicaments qui ont des propriétés autotoxiques, c'est-à-dire qui peuvent détruire l'oreille, n'est-ce pas?
Donc la maman ne doit pas, la femme enceinte doit faire attention
doit
à ce qu'elle prend comme produit
à tout ce qu'elle
pharmaceutique.
Prend. Voilà, tout à fait, parce qu'il arrive que ces produits arrivent à entraîner des dérèglements au niveau de l'organe de l'audition de l'enfant. Et il y a aussi des facteurs nataux. Quand l'enfant naît, par exemple, il sort de la filière, soit que l'enfant est en asphyxie, surtout quand il naît avec un poids inférieur à 2000 grammes, soit quand l'enfant a une infection néonatale sévère, etc. Donc tous ces différents facteurs, si l'enfant naît avec un abgar très bas, tous ces facteurs peuvent expliquer à la longue la surdité. Tout comme aussi il y a des facteurs post-nataux, c'est-à-dire après la naissance, on parle souvent des infections, notamment la méningite bactérienne, surtout la méningite au pneumocoque, etc. Toutes ces formes de méningite peuvent à la longue entraîner des altérations nerveuses importantes, oui, justiciables d'une surdité.
Mais pour une dame qui a une femme enceinte qui prend, qui fume ou qui prend trop d'alcool, est-ce que ça peut également influer sur l'organe auditif de l'enfant?
Tout à fait, vous avez raison de le souligner parce que les études ont montré effectivement que une femme qui fume court le risque d'avoir un enfant qui naît avec un faible poids de naissance. Ça, c'est prouvé. Et là, au moins, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais néanmoins, on s'est aussi rendu compte que les femmes qui fument peuvent aussi mettre au monde des enfants qui peuvent avoir des handicaps auditifs. Parce qu'il y a aussi des relations, une certaine corrélation entre la fumée de tabac et l'audition. Donc les relations existent et sont très bien nettes. D'ailleurs, plusieurs études attestent et approuvent cette causalité.
Voilà, des questions, des réactions, composez le 081-890-6394. Écrivez-nous aussi à service@radiocapi.net. Nous recevons aujourd'hui Dr Jérôme Sokolo, spécialiste en otorhino-laryngologie, qui nous parle des réactions normales d'un enfant nouveau-né, comment reconnaître une anomalie, surtout des problèmes d'audition chez votre enfant. Vous avez des questions, n'hésitez pas, l'invité est là pour vous rendre service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Docteur Jérôme, vous êtes, oui, sur le plateau de Radio Capi. Vous êtes suivi partout à travers le pays, même en dehors de nos frontières. Les auditeurs appellent dans cette émission pour poser des questions. Vous êtes là, n'est-ce pas? Ensemble, nous rendons service aux auditeurs. Nous avons par exemple en ligne Rachidi qui nous appelle depuis Kalemi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour, je dis Kachama.
Oui, Rachidi, quelle est votre préoccupation?
Ah, ma préoccupation, je veux un peu savoir, j'ai une question à poser à docteur.
Oui.
Oui, ma question est celle-ci. Parce que lorsque l'enfant naît, bien sûr, avec ce qui vient à peine d'épingler là-bas, les cordes d'Ascar, bien sûr, nous savons. Maintenant, moi, je veux un peu savoir, étant que médecin, avec toutes ces surveillances dans les consultations, est-ce que ça se passe d'abord dans le salle du travail? Ça, c'est un. De deux, est-ce que dans le salle de travail, il y a ce qu'on appelle, bon, parce que de toutes les façons, nous trouvons dans le salle de travail, nous trouvons des matrones, bon, c'est un peu ça, donc, des mamans sages. Est-ce que Et dans ce service là-bas, c'est vraiment organisé. Parce qu'avec les scores d'accueil là-bas, avec les recherches archaïques, bien sûr, est-ce qu'on les trouve et on les fait pratiquement? C'est un peu ma préoccupation.
Merci, Rachidi, docteur Jérôme.
Oui, je remercie M. Rachidi depuis Calémie. Effectivement, sa question comporte à la fois un volet suggestion, je pense, et il voudrait savoir si réellement ces pratiques sont d'usage courant.
Dans la salle de travail.
Dans la salle de travail. Il faut reconnaître que nous avons assez de faiblesses là-dessus, parce que souvent, ces indicateurs de détection des anomalies neurologiques, surtout dans certaines salles où vous n'avez pas suffisamment de personnes doté d'une instruction suffisante, ce problème se pose avec acuité. Et je crois que ce qui pose comme problème reste fondamental dans la mesure où toutes les personnes qui sont dans des salles de travail doivent veiller à ce que chaque traduction clinique d'une anomalie puisse vraiment être approfondie. Dès lors que vous savez que cet APGA est très bas, sachez que cet enfant va développer.
APGA, c'est quoi, docteur?
Donc, c'est un score de détection simplement de la viabilité. Donc, quand l'enfant le sort, on peut savoir prédire son devenir neurologique, etc.
Voilà. Ça s'appelle c'est à l'aide d'un appareil qu'on appelle l'APGAR.
Non. On détecte seulement, on voit les différentes réactions de l'enfant et à la naissance et on les a codifiées.
Alors, est-ce que les sages-femmes sont suffisamment formées pour détecter ces anomalies?
Oui, certaines d'entre elles, oui, et d'autres, non. D'autres non, et certaines, nombreuses d'entre elles savent les détecter, mais c'est pourquoi il faut qu'il y ait à côté de sages-femmes des médecins qui ont des connaissances suffisantes pour comprendre déjà la détection des anomalies qui peuvent s'installer.
Voilà, nous avons également un autre auditeur depuis Kindu, Séverin Kizozo. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour.
On vous écoute.
Ah, j'avais une préoccupation à poser à docteur Jérôme Sokolo.
Oui.
Je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'un enfant dont un nouveau-né mâle écoute le plus souvent vite qu'une femelle. Donc, un garçon écoute vite qu'une fille. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je voulais savoir si un enfant qui vient de naître avec des dents, déjà avec quelques dents dans sa bouche, est-ce une anomalie, monsieur le docteur?
Oui, monsieur Séverin Kizozo, question de savoir si un mâle
écoute plus
la voix de femme.
Non, écoute la musique ou peut capter les sons beaucoup plus rapidement que la fille.
Oui, à cette question-là, je n'ai pas de réponse tout à fait précise à vous dire, mais ce qui est constaté, c'est que s'il y a des anomalies, en tout cas, c'est exégo. Les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative en l'écart des anomalies auditives entre les sexes. Donc, je crois qu'à ce sujet, ce qui compte le plus, ce sont les facteurs de prédisposition ou les facteurs d'installation de ces différentes anomalies.
Donc, bon, ce qu'il dit là, c'est pas fondé.
Bon, je ne sais pas.
Dire que les mâles, ils ont leur organe auditif est beaucoup plus développé.
Ils
perçoivent les sons rapidement plus que les filles.
Je ne saurais pas le prouver et je ne saurais pas le prouver qu'il dit faux ou qu'il dit vrai, mais néanmoins, je n'ai pas encore des formations là-dessus. Et s'agissant de la deuxième préoccupation qui consistait à...
Il dit un enfant qui naît avec des dents.
Des dents.
Est-ce que c'est une anomalie?
Oui, il faudra qu'on sache ces dents, elles sont de quelle nature, et est-ce que ce sont des dents surnuméraires, est-ce que ceci. Et par rapport à notre sujet, je pense qu'il est mieux que cette question soit mieux approfondie, mieux discutée avec ceux qui gèrent correctement et suffisamment les dents, comme le chirurgien dentiste et les stomatologues.
Voilà, Théodore, on nous appelle de Calémie. Bonjour.
Ok. Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Ok. Je voudrais poser une question à notre invité du jour.
Oui.
Par rapport à l'enfant qui naît avec les symptômes de surdité. Dans un ou deux mois, si cela est vérifié, est-ce que l'enfant peut être sauvé pour qu'il soit vraiment attentif?
Très bien. Cette question est très importante. Tout ici, le problème, c'est la précocité du diagnostic. Et d'ailleurs, dans tous les travaux qui ont été, qui sont présentés en rapport avec la surdité, prouvent que plus tôt on découvre une anomalie, et plus tôt mieux on peut la gérer et la traiter correctement. Donc ici, la précocité diagnostique garde toujours son importance. Il est d'ailleurs conseillé dans la plupart des travaux de détecter déjà la surdité dans les 3 mois qui suivent. Dès qu'on détecte cette surdité à 3 mois, déjà on a plus de chances en fonction des lésions qui sont observées grâce à l'appareillage. On peut déjà avoir plus de chances de trouver une solution à cet enfant que si on attendait plusieurs années après.
Voilà, mais la maman déjà à la maison, quand elle lave son bébé, elle passe du temps avec son bébé, quels sont les signes qui peuvent bien informer la maman sur une anomalie auprès de son enfant, par rapport surtout à l'audition hein?
Oui, les principaux signes ici sont caractérisés par rapport à l'âge. Entre 0 et 3 mois, souvent il y a absence de sursauts au bruit fort. Le sommeil de l'enfant est souvent imperturbable. C'est à partir de 6 mois qu'il y a absence de recherche de la source sonore si elle n'est pas visible. Donc l'enfant ne va pas rechercher cette source sonore. Entre 9 et 12 mois, il y a absence de réaction aux ordres simples, aux interdits. Et si l'enfant n'est pas aidé par les contextes, des gestes ou des mimiques, ce processus de suppléance, en particulier visuel,
oui, alors, donc, est aussi... Oui. Vous pouvez expliquer ça? Vous avez dit d'abord entre 0 et...
Entre 0 et 3 mois, il y a absence de sursaut au bruit fort. Donc en fait, quand vous tapez quelque chose sur la table, et vous remarquez que l'enfant ne sursaute pas à ce bruit-là. N'est-ce pas? Et à partir de 6 mois, souvent, il y a absence de la recherche de la source sonore.
Alors, quand il ne sursaute pas, c'est que...
C'est que ça signe qu'il y a un problème d'audition, parce que s'il a entendu, il devait sursauter.
Oui.
Voilà.
Là, c'est de 0 à 3 mois.
De 0 à 3 mois.
Et de 3 mois à 6 mois.
À partir de 6 mois, oui. Il y a souvent absence de réaction de la source sonore. Donc, quand il y a une source sonore, par exemple, on est en train de sonner, on utilise par exemple une sonnette, et de loin, un enfant qui est normalement entendant doit regarder.
Là. Par exemple, le téléphone de la maman qui sonne à côté.
Oui, il doit regarder d'où vient ce bruit. Il doit chercher à regarder. Peut-être qu'il ne verrait pas, mais il doit savoir regarder où est la source sonore.
Voilà. Là, c'est déjà 6 mois.
À partir de 6 mois, déjà, il doit regarder.
Oui.
Déjà, quand nous sommes entre 9 et 12 mois, l'enfant ne réagit pas aux ordres. Quand vous l'envoyez, vous dites à l'enfant, va... Mais prendre de l'eau. L'eau. Va. L'eau. Vous sentez qu'il ne réagit pas. Mmh. Il ne va pas. Il ne sait pas y aller. Alors vous comprenez que cet enfant est toujours... Vous avez l'impression qu'il est distrait. Alors qu'il n'est pas distrait, mais simplement il a des handicaps qui lui permettent de ne pas entendre.
Voilà. Nous avons Raoul en ligne depuis Colosie. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Oui, quelle est votre question?
Ma question est ceci. J'aimerais poser la question au docteur.
Oui.
Il y a des fois... Oui, dans certains cas, l'enfant qui meurt...
Raoul.
Oui, présent.
Voilà, vous êtes à côté d'une radio, nous recevons des effets, des feedbacks ici à l'antenne. Si vous pouvez soit réduire sensiblement le volume ou de votre poste récepteur ou vous éloigner carrément de votre radio et poser la question.
Ok. Je fais comprendre.
Allez-y.
J'aimerais poser la question près du médecin.
Oui.
Dans certains cas... Il y a l'enfant qui naît avec le score d'Asperger qui est bien associé à l'hôpital, mais vous vous rendrez compte que dans les 24 heures qui poursuivent l'accouchement, l'enfant commencera à faire des dyspnées très sévères. Et cela est bien bon.
Oui, je crois que je l'ai aussi dit dans le cadre des facteurs qui peuvent prédire un avenir néfaste. Dans le cadre de la surdité, j'avais dit que toutes les infections, surtout qu'elles soient néonatales, ont une certaine influence dans la genèse de la surdité chez l'enfant, chez le nouveau-né. Donc, le score d'Apgar peut être bon, et vous savez qu'il y a aussi des problèmes liés à l'autotoxicité médicamenteuse qui sont aussi reconnus dans ce genre de choses. Donc, cela voudrait dire quoi? À la fois que vous établissez le devenir immédiat de l'enfant, et le devenir neurologique est aussi important, parce que le devenir neurologique suppose une atteinte de voies nerveuses qui conduisent, qui amènent l'information afférente vers le cortex. Donc ici, le problème ne se pose pas en termes d'APGAR toujours, mais il y a plusieurs paramètres, facteurs qui prédisent la survenue ou la genèse de la surdité en dehors de l'APGAR que j'ai cité, donc les infections néonatales, toutes ces infections de voies respiratoires supérieures notamment, qui sont très fortes, qui peuvent être à la longue, à la base de la genèse de la surdité.
Voilà, Jerry Kalala, en ligne depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Bon, je voulais poser une question, docteur, savoir si les sécrétions qui sortent de l'oreille, les saletés là, ce sont des symptômes d'une maladie auditive ou bien c'est une situation normale. Et puis, la deuxième question, c'est de savoir, je voulais savoir s'il y a des infections chez la mère qui peuvent conduire à la surdité quand la femme va naître.
Bien, il faut dire d'abord pour ce qui est des sécrétions que vous appelez, que nous appelons dans notre langage courant en médecine de cérumen. Et les cérumen, ce sont des productions normales, des glandes qui sont dans le conduit auditif externe. Et ces sécrétions sont produites dans le cadre normal et assurent également une protection locale, n'est-ce pas, vis-à-vis des différents germes qui peuvent attaquer le conduit.
Mais les gens disent souvent salité amatorique quand ça sort jusqu'au niveau du pavillon.
Le terme salité amatorique, moi je trouve qu'il est impropre un peu de parler de salité amatorique. Moi je pense qu'il faut plutôt parler de production normale de sécrétion de l'organisme, mais qui, dans certaines circonstances, du fait d'une production du fait de l'exagération de la production, et ça peut constituer quelques handicaps, quelques gènes.
Donc il faut toujours les éliminer de temps en temps.
C'est-à-dire, ce qui est conseillé, c'est que l'organisme en soi élimine lui-même. Ces genres de sécrétions. Il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui expliquent parfois que ces sécrétions restent stagne à ce niveau-là, et ça, ce sont les facteurs que nous n'allons pas peut-être, sur lesquels nous n'allons pas intérêt.
Et les mamans qui utilisent souvent les tiges coton pour leur bébé, est-ce que c'est dangereux aussi de le faire très souvent?
Oui, ce sont des pratiques qu'il faut totalement décourager auprès de nos mamans. Parce qu'une fois qu'elles appliquent ces pratiques, qu'elles utilisent ces coton-tiges, l'inconvénient, c'est que vous impactez davantage les cérumen dans le conduit. Et du fait que vous les impactez, c'est-à-dire vous les entassez, ils vont finalement s'agglutiner, devenir ce que nous appelons bouchons et des cérumen. Et c'est parfois ça aussi qui est la cause, la base, parfois c'est la suite des faits de malin, du fait que le sujet devient malentendant, parce qu'il y a un blocage des zones sonores qu'ils ne savent pas passer.
Bipé Babaroki nous appelle de Walikale. Bonjour. Bipé, bonjour. Bipé, vous êtes en ligne depuis Walikale, bonjour. Voilà, Bipé n'est pas là. Joël Bongolé de Mbandaka, bonjour.
Bonjour et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Joël.
Oui, j'ai été dans plusieurs villages où il n'y a pas d'infirmiers, ni moi encore des accoucheuses. Alors, comment reconnaître que l'enfant est né avec des handicaps et qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, la reconnaissance de l'handicap commence d'abord par la femme, la sage-femme qui accouche, qui doit d'abord chercher à déceler, à prédire déjà le devenir néologique de l'enfant. Et vous dites que là où il n'y en a pas, il n'y a ni infirmier. Bon, je ne sais pas comment ces femmes accouchent, s'ils n'ont ni infirmier ni quoi. Mais de toute façon, supposons que la femme ait accouché sans infirmier, qui s'est dit que ça s'est fait au village, cette maman qui élève cet enfant doit faire attention aux différents signes d'appel de la surdité. Il doit les rechercher, ce que nous avons déjà rappelé, surtout absence de réaction, quand il n'a pas de bruit, tout cela, ce sont des signes faciles qui ne nécessitent pas un appareil sophistiqué pour pouvoir les détecter. Donc là où il n'y a pas d'infirmière et de tout ça, le rôle de la mère est important là-dessus pour assurer, pour rechercher les signes d'appel.
Il y a un auditeur qui a posé un deuxième volet de sa question. Il a parlé des infections qui peuvent, si les infections de la mère peuvent avoir des conséquences sur l'appareil auditif de l'enfant.
Très bien. Les infections de la mère peuvent avoir des conséquences effectivement sur l'appareil auditif de l'enfant. Et vous savez que surtout les femmes ceux qui ont des infections à cytomégalovirus, par exemple.
C'est-à-dire?
C'est un virus, là, donc qui est souvent pas responsable, qui est incriminé dans la genèse sous de la surdité. Et il y a aussi de certaines anomalies congénitales, disons des anomalies, soit si l'enfant, la femme a pris trop de médicaments qui sont reconnus autotoxiques, c'est-à-dire que ces médicaments détruisent l'oreille, notamment les diurétiques, n'est-ce pas? Tous ces produits-là peuvent être... Les diurétiques, c'est-à-dire c'est pour nous, ce sont des médicaments qui facilitent la diurèse, donc, qui aident les sujets à uriner. On incrimine aussi cela dans les cas de tout ça. Il y a une série de médicaments, la polymyxine B, etc. Donc, ils sont généralement incriminés. La néomycine.
Donc, les femmes enceintes ne doivent pas prendre des produits, faire de l'automédication.
Oui, voilà, il faut sous prescription.
Oui.
Il doit les reconnaître. Ou si au besoin, il est enceinte, il doit toujours dire à son médecin sous quel traitement elle est. Comme ça, le médecin est au courant. Il pourra au besoin le prévenir des dangers qu'elle encourt en prenant ces produits autotoxiques.
Voilà, terminons avec la question de Gabriel de Bondo, en province orientale. Bonjour.
C'est Gabriel Akolozi.
Akolozi, excusez-nous, allez-y.
Je voulais dire qu'un enfant né avec une maladie qu'on appelle un daltonien, disons. Comment pouvons-nous le savoir? Parce que c'est une maladie qui s'est caractérisée par la confusion de couleurs. Maintenant, dans ces cas-là, comment on peut le savoir si un enfant est daltonien ou pas?
En fait, merci de la question. Vous savez que le problème du daltonisme ici ne concerne pas directement la surdité. Si nous sommes en train de parler de la surdité, cette confusion que quelqu'un peut avoir entre le rouge, le bleu, tout ça, cela n'est pas lié ici chez nous à la surdité. Nous voulons qu'il y ait
un ophtalmologue
qui pourra éventuellement, avec la multidisciplinarité, voir ce qui peut être faisable.
Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Docteur Jérôme Sokolo, spécialiste en otorhinolaryngologie. Merci et à la prochaine.
Ok.